France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Alors que les Jeux Olympiques d'hiver s'achèveront bientôt, et par-delà le plaisir que nous avons pris à regarder à la télévision les skieurs s'affronter, la question de la nature de cet événement mérite d'être posée. Le sport peut-il être transformé en spectacle sans se dénaturer ? Encore faudrait-il savoir en quoi consiste au juste cette étrange activité par laquelle le corps éprouve une jouissance étrange, teintée de souffrance, en repoussant les limites de sa propre puissance. Le sport découle-t-il de l'esprit de compétition, voire d'une sublimation pacifiée de la pulsion de guerre ? Si l'important n'est pas de gagner mais de participer, l'entraînement physique marque-t-il au contraire un moment de grâce où l'athlète se réconcilie avec lui-même ? Il se pourrait ainsi que malgré sa commercialisation et ses multiples instrumentalisations politiques, le sport abroge toute distance entre la transcendance du corps et celle de l'esprit, offrant une expérience de réconciliation avec sa propre chair. Y a-t-il une religion du sport ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés du philosophe Jean-Luc Marion et de l'historien Julien Sorès.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Jean-Luc Marion.
Bonjour.
Alors permettez-moi pour une fois de vous présenter de façon très subjective.
Oui.
Vous êtes le premier philosophe contemporain que j'ai lu. Vos certitudes négatives en terminale, l'anthologie grise, la théologie blanche de Descartes et tant d'autres livres. Vous êtes philosophe, ancien professeur à la Sorbonne et à l'Université de Chicago. Et vous publiez récemment La raison du sport aux éditions Grasset. Bonjour Julien Sorès.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du sport, et vous publiez « Le sport en procès » chez CNRS Éditions. Alors, Jean-Luc Marion, dans La raison du sport, moi je savais, en tant que j'ai eu l'occasion d'assister à certains de vos cours, que vous aviez deux corpus que vous connaissez par cœur, les éditions Adam Tannery de Descartes, et puis l'équipe que vous lisez également religieusement. Et dans La raison du sport, vous racontez que vous avez eu une activité sportive très, très développée, qui a failli être professionnelle, et que Bassonville, votre entraîneur, vous a dit « tu es bon, mais pas très ». Et que de cette révélation-là, vous avez décidé d'intégrer l'école et d'entrer en philosophie. La première question que je voulais vous poser, c'est comment cette passion du sport, cette vocation du sport, s'est mêlée, ou ne s'est pas mêlée d'ailleurs, à votre pratique et votre vie philosophique ?
Le sport, pour moi, c'est comme pour beaucoup. D'abord, c'est un amusement. On découvre que dans une spécialité ou une autre, on a un petit don. Et... ça, c'est un choix. On décide de travailler ce don. Alors, moi, je l'ai fait en scolaire. Et puis, je me rappelle, c'était le chef des étudiants communistes du lycée de Sèvres, avec qui nous étions par ailleurs en rivalité, qui m'avait traîné... qui était un très bon coureur, qui m'avait traîné au Stade français. Et j'ai commencé dans l'équipe cadet et junior du Stade français, qui était très bonne à l'époque, et on s'est tiré une bourre terrible avec le racing. J'ai commencé à courir un peu sérieusement, enfin du moins c'était très sérieux pour l'âge que j'avais. Et j'ai découvert beaucoup de choses. La première chose que j'ai découvert, c'est que il n'y a pas de frontières entre le possible et l'impossible. Ça, c'est une expérience fondatrice pour moi. C'est-à-dire, on commence toujours pour avoir un record personnel minable, ce qui est normal. On s'entraîne, si on décide de faire les choses sérieusement, pour battre ce record personnel. Plus on s'entraîne, plus on a l'impression que le record personnel est un Himalaya. C'est-à-dire, en un sens, on se construit l'impossibilité mentalement. Et puis, un jour, après beaucoup de « ans », beaucoup de l'avoir bavé comme un cochon. Un jour, on ne sait pas exactement pourquoi, en compétition, on bat son record personnel. Et plus ça a été difficile, plus c'est une libération. Et plus c'est l'expérience que, quand on dit quelque chose est impossible, non seulement ce n'est pas français, mais ce n'est pas sportif, la notion d'impossibilité, qui est pourtant une catégorie métaphysique fondamentale, la distinction entre le possible et l'impossible, il n'y a pas que Kant, tous les philosophes pensent qu'il y en a une, et bien les philosophes se trompent peut-être, Kant se trompe peut-être. Il faut dire que Kant, il marchait, hein, il courait pas. C'est une grosse différence. Et donc j'ai découvert ça. Alors évidemment, comme vous racontez... À un moment, comme mon interlocuteur, il y a un moment où on se décide à faire des études sérieuses, et à ce moment-là, le sport prend trop de temps, fatigue trop, pour qu'on puisse faire les deux. Alors j'avais posé la question à celui que j'appelle Bassonville ici, qui s'appelait, je ne sais pas s'il est mort d'ailleurs, c'était une brute, mais une brute très intelligente et un très bon entraîneur, un adjudant-chef de la Légion, quoi. Et, il s'appelait Dassonville. Et je demandais à Dassonville, qu'est-ce que je peux espérer? Il m'a dit, tu es bon, mais pas très. C'est cette phrase fondatrice. Et donc, j'ai décidé de faire de la philosophie, où j'espère que je suis plus que bon, pas très.
Julien Sorès, je ne sais pas si vous êtes bon, pas très en sport, mais toujours est-il que vous n'avez pas scindé votre vie intellectuelle et votre passion du sport, puisque vous vous êtes spécialisé en tant qu'historien sur le sport, en tant qu'objet. Qu'est-ce qui vous a amené, dans votre évolution universitaire, dans votre parcours universitaire, à adopter cette spécialisation-là ?
Alors, je partage d'abord ce clivage initial, puisque j'ai fait des études prépa littéraires, agrégation, et en fait, il n'était absolument pas prévu dans mon parcours que j'appréhende le sport comme objet de recherche. Et c'est un accident de parcours académique, puisque j'ai échoué à avoir l'allocation de recherche que je convoitais au sortir de la grègue, qui était sur la propagande fatimide 11e siècle, donc partant d'Égypte vers l'océan Indien, et étant dans l'impossibilité de réaliser cette thèse, puisqu'il m'a fallu enseigner dans l'enseignement secondaire, je me suis demandé ce que je pouvais faire dans les 5-10 prochaines années en termes de projet de recherche. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je me réconcilie avec mes passions inavouées et que j'appréhende justement ce qui était le cœur, un des moteurs en tout cas de mon existence, le sport, pour pouvoir en faire un objet de recherche. Cela étant, ce n'est pas parce que j'ai pris ce parti-là que les choses ont été simples, puisqu'en réalité, il faut, quand on engage une carrière universitaire, considérer qu'il y a un marché du recrutement universitaire et que faire une thèse, entreprendre une thèse dans un domaine donné, eh bien, doit déboucher sur un poste, une élection, une forme de cooptation. Et donc, il faut que l'objet de recherche soit suffisamment légitime dans le champ académique. Et dans les années, début des années 2000, quand j'entreprends cette démarche de réconciliation entre moi et moi-même, c'est pas forcément très évident en France. Il y a un retard, notamment par rapport à la Grande-Bretagne. Il commence à y avoir quelques travaux, mais c'est encore une minorité de chercheurs qui considèrent le sport, et encore plus sans doute le football auquel je vais m'intéresser à ce moment-là, comme un objet d'étude légitime.
Alors que Jean-Luc Marion, vous dites l'inverse dans votre livre, savoir que vous avez toujours rêvé de consacrer un séminaire à la question du sport, que vos étudiants vous écoutaient plutôt sur Descartes, sur Husserl, sur Heidegger, en phénoménologie, et donc que peut-être dans le monde philosophique académique français, il y avait une négligence, une dévaluation, je ne sais pas comment le dire.
Une ignorance, tout simplement. Une ignorance. Moi, je savais que le sport était une des choses éducatives, les plus éducatives que j'avais connues, et que ça me servait beaucoup dans la vie intellectuelle. Il y a un rapport, la vie intellectuelle, comme vous l'avez dit, il faut avoir un projet à long terme. Il faut avoir un projet à long terme, il faut avoir le nez fin, c'est-à-dire ne pas faire les projets de recherche auxquels tout le monde songe. Il faut voir ce qui va devenir important et que les gens autour de vous ne voient pas. Il faut prendre quelques risques. Et le sport m'a beaucoup aidé comme ça. Donc, Et aussi une chose fondamentale, c'est que le sport, comme phénomène global, est un phénomène global et c'est une contractualité. Et on peut avoir une double vie avec le sport. Ça veut dire, vous avez, finalement, il y a deux actualités, deux types de journaux. Vous avez les journaux qui disent qu'ils parlent des choses sérieuses. Bon, Le Monde, Le Figaro, là, très bien. Et puis, il y a les choses pas sérieuses. Et là, parmi les choses pas sérieuses, il y a le quotidien L'Équipe, qui est plein de défauts, mais qui vous donne accès à un autre emballage du monde. Et vous pouvez avoir des catastrophes dans le monde dit réel et des grandes joies dans le monde, dans l'actualité dite irréelle du sport, ou l'inverse. Et les deux ne coïncident pas nécessairement. Par exemple, 58, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est De Gaulle qui arrive au pouvoir. Le général, et Charlie Gaulle. Moi, j'étais plutôt content que gamin que De Gaulle arrive au pouvoir, mais j'étais catastrophé que Charlie Gaulle ait gagné en 58 le Tour de France. Et puis, vous avez des rythmes. C'est-à-dire, il y a Pâques, bon, il y a la Semaine Sainte, tout ça, c'est très bien, mais ici, il y a Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. L'été, c'est très bien, mais c'est parce qu'il y a le Tour de France. L'hiver, c'est le ski, la bagarre avec les Autrichiens, etc. Donc, vous avez une ritualité, une temporalité, je dirais une liturgie, un cycle liturgie du sport, qui fait qu'on vit dans deux mondes. Et parfois, on peut se demander quel est celui qui est vraiment réel. C'est-à-dire, vous avez des pays, quand en Italie ça va pas, ils se raccrochent aux branches des succès sportifs. Et en un sens, la période politique française qui n'est pas bonne se raccroche aux branches des succès sportifs, et c'est raisonnable, et c'est très bien. C'est-à-dire que le moral réel de la société peut être déterminé autant par le supposé irréel des sports que par le supposé réel de la politique. Et quand la politique devient spectacle, le sport devient la réalité. Et c'est très bien comme ça. Donc cette double temporalité est une des choses fondamentales. Ce qui fait que j'ai pu garder le sport, si je puis le dire, dans mon arrière-fond mental, et dont il n'est sorti que récemment.
Parmi ces rites qu'évoque Jean-Luc Marion, il y en est un que nous vivons actuellement. Alors moi, je vais déjà confesser pour nos auditeurs, je n'y connais rien en sport. J'avoue mon ignorance, j'avoue ma nullité totale dans ce domaine, et j'avoue donc que je n'ai absolument pas regardé les Jeux Olympiques d'hiver. Je serais à peu près incapable de vous dire le nom des épreuves, des athlètes, etc. Mais Julien Sorèze, j'imagine que vous les avez peut-être un peu plus regardés que moi, et vous me disiez que vous aviez été notamment marqué par la blessure d'une athlète américaine, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, c'est la chute de la skieuse américaine Lindsay Evon, qui, à 41 ans, donc n'en est pas à sa première descente, et qui, au bout de 15 secondes de descente, se prend une porte, littéralement, et se fracture le tibia gauche. Il faut savoir que, bon, elle était déjà multimédaillée, et elle avait décidé d'arrêter sa carrière. Finalement, elle remonte sur des skis. Elle s'est, le mois avant la compétition, rompu un ligament croisé du genou, ce qui pose quand même des problèmes de stabilité assez forts, même si elle l'a compensé. Et je trouve que c'est assez intéressant, puisque ça montre à la fois la détermination qu'il faut dans le sport en général, et plus particulièrement dans le sport de haut niveau, et en même temps la manière dont le corps est poussé dans ses limites, dans ses retranchements, et qu'on est capable de sacrifier son propre corps pour performer, pour participer déjà, et puis pour performer ensuite. Et cette image, elle est aussi intéressante parce que je pense qu'elle montre une autre réalité du sport compétitif et que l'on voit de par sa médiatisation aujourd'hui. C'est la manière dont en quelques fractions de seconde, les choses peuvent basculer. C'est-à-dire que la performance, la construction de la performance, la victoire, c'est tout un tas de petits réglages, tout un tas de détails. Et en un rien de temps, on est sur un fil et tout peut s'effondrer. Et je crois que c'est vrai dans des sports individuels, comme des descentes, où la vitesse est importante, la prise de quart, etc. Mais c'est vrai aussi dans les sports collectifs, où une demi-seconde d'inattention d'un gardien de but ou d'un défenseur peut coûter la victoire à une équipe. Donc, je trouve que ce moment-là est saisissant, puisque les Jeux Olympiques et le sport compétitif, c'est à la fois fait de médailles, de podiums, d'hymnes, etc., de consécration. Et en même temps, on voit l'hélicoptère qui ramène cet athlète à l'hôpital, qui doit se faire opérer. Et c'est vraiment autour de cette compétition, de cette hyper-compétitivité, les deux faces, en fait, pour moi, fondamentales de ce que sont les sports de compétition de haut niveau.
Alors que Aline Biette m'a dit, quand elle a préparé l'émission et qu'elle en a discuté avec vous, Jean-Luc Marion, que vous, ce qui vous avait plus marqué dans ces Jeux Olympiques d'hiver, c'était l'artificialisation, non seulement de la neige, mais de certaines épreuves sportives, en un sens.
Oui, on parlait du spectacle à l'instant, le sport est un spectacle, c'est quand même sa capacité à produire du spectaculaire qui fait que il est organisé, il y a du public, il y a de l'argent, etc. Et les Jeux Olympiques en particulier pensent toujours créer de nouveaux spectacles. Et c'est très dangereux parce que, d'abord, ces spectacles deviennent de plus en plus extrêmes, ils sont de moins en moins représentatifs d'une vraie pratique sportive de la part des spectateurs et de la population. Et ils dénaturent d'une certaine façon les Jeux olympiques. C'est ce qui menace les Jeux en général et les Jeux d'hiver en particulier.
Alors les Jeux olympiques, le sport lui-même, ont une histoire complexe, sédimentée, ambiguë. S'agit-il d'un concours ? Le sport est-il une compétition violente, une métaphore de la guerre ? Ou au contraire, s'agit-il d'un moment, d'une expérience de fraternité ? Nous allons en discuter.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Oh Zinedine ! Oh Zinedine ! Non. Pas ça Zinedine ! Non. Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Oh non, Zinedine.
Non, mais ça se fait pas, ça peut pas se faire.
Ça
peut
pas
se faire.
Il sort un carton, il sort un carton. Il va sortir un carton, et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. C'est pas possible. C'est pas vrai, c'est son dernier match, c'est la finale de la Coupe du Monde. Oh non, 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 non. Mais c'est terrible.
Oh non Zinedine, c'est épouvantable, tout le monde aura reconnu le coup de boule de Zinedine Zidane lors de la finale France-Italie de la Coupe du Monde en 2006. Julien Sorès, je dois vous avouer, moi c'est le seul match que j'ai vu, le premier et le dernier que j'ai vu, et ça m'avait tellement dégoûté cette scène-là que je m'étais dit, bon, je n'en verrai plus. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de se dire que cette conception du sport comme combat, comme volonté de battre autrui, de le terrasser, cette conception belliqueuse du sport, est peut-être liée à sa professionnalisation.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que y a d'un côté... Alors, je pense que cette dimension-là, c'est la dimension agonistique et qu'on retrouve dès l'Antiquité, où finalement, le combat, la compétition et la guerre sont quelque part indifférenciés, font partie de la même activité. Alors, ce qu'on peut considérer, c'est que quand même, le sport, on parlait de métaphores guerrières, etc. Le sport, et là, on peut s'appuyer sur les travaux du sociologue Norbert Elias, qui a montré qu'en fait, un des éléments constitutifs du développement du sport, c'est finalement qu'il s'inscrit dans le processus de civilisation. C'est-à-dire que c'est à un moment où non seulement les États ont réussi à confisquer le monopole de la violence légitime, on le voit en France avec le système de cours mis en place ou la monarchie absolue, on le voit en Angleterre au XVIIIe siècle, et en fait, on a là un univers qui va... qui va faire que les individus vont intérioriser une forme de contrainte, d'autocontrainte, de self-control. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le sport est un des espaces dans lesquels on peut avoir un champ de bataille symbolique. C'est-à-dire où on peut avoir une forme d'affrontement agonistique très intense, mais avec des règles, avec un espace, c'est ce qu'il appelle, Elias, la libération contrôlée des émotions. C'est-à-dire que dans un monde où c'est les États qui s'imposent comme détenteurs de la violence légitime, il se crée des espaces où on peut libérer, oui, de manière contrôlée, cette expression d'une violence qui n'est plus tolérable dans le monde social comme elle pouvait se déployer en d'autres temps et en d'autres lieux. Et en même temps, pour quand même pouvoir évoquer la question du coup de boule de Zidane, ce qui se passe, c'est que cette question de l'autocontrôle, de la régulation du sport par lui-même, elle a certaines limites. C'est Elias et son comparse Eric Dunning qui le montrent, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles cette autorégulation ne fonctionne plus. C'est par exemple quand les enjeux financier ou compétitif, et là, c'est la question de la professionnalisation, c'est-à-dire que quand, finalement, ce monde qui est un peu suspendu en dehors des contraintes du monde social est réinvesti par d'autres formes de contraintes, la professionnalisation, la question de la marchandisation, des enjeux économiques qui redonnent, finalement, qui font re-rentrer les enjeux externes à la pratique, ou quand, par exemple, parce que le deuxième grand exemple, c'est la question des dérives, de hooligans, etc., quand il y a des individus, pour Elias et Dunning, qui, en fait, n'ont pas encore été totalement associés au processus de civilisation, des gens qui ont un statut d'outsider, qui, par exemple, peut être la classe ouvrière déclassée, paupérisée dans l'Angleterre des années 70-80, qui, du coup, n'a pas la même forme d'autocontrôle parce qu'elle est en marge de la société. Et donc, on a à la fois, je pense, dans le sport, un élément qui est une culture agonistique maîtrisée, codifiée, intériorisée comme telle par les acteurs, et puis des phases et des moments où le champ de d'affrontements symboliques se casse et il y a une violence réelle, effective qui prend le dessus.
Oui, mais je pense pas que ce soit uniquement l'analyse d'Elias est connue, elle est juste, hein, mais en fait, quand on voit le mouvement olympique, hein, il a, dès le début, une double devise.
Exactement, c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Double devise, et ces deux devises se contredisent. Il y a plus fort, plus haut, plus vite, qui est donc la définition agonistique du sport. Et puis, il y a l'important, c'est de participer. C'est d'ailleurs deux religieux qui ont inventé chacun une des deux formules. Et Coubertin a repris ces deux formules. Et elles sont contradictoires, puisque la seconde suppose une communauté de sport. Et d'ailleurs, la devise olympique a été, au fronton du musée olympique de Lausanne, rectifiée par le président Bach, hein, qui a ajouté « communautaire » après « altius cutius fortius ». Alors, il faut bien comprendre, ça me semble capital. C'est-à-dire, la dimension agonistique, elle est absolument réelle, et elle est dominante dans les jeux grecs et il devient absolument exclusive dans leur version romaine. Mais la domination, si vous voulez, le spectateur ne voit que l'agone. Le pratiquant connaît l'agone et la communauté de ceux qui acceptent de se faire mal pour faire des progrès. C'est-à-dire, les acteurs sont beaucoup moins prisonniers du spectacle que les spectateurs. Et il y a une communauté, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aller dire jusqu'à fraternité, mais il y a une communauté du peloton, comme dit très bien Guillaume Martin, une communauté du peloton dans laquelle tout le monde sait ce que l'autre est. Endure, les efforts que l'autre endure, c'est l'adversaire, il faut le surpasser, mais on respecte ce qu'il est capable de s'infliger à lui-même. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui prennent pour eux-mêmes cette remarque, pour faire ça, faut pas s'aimer. Et qui acceptent de ne pas s'aimer, pourquoi ? Pour devenir plus qu'eux-mêmes. Mais tous les gens qui font ça, partage ceci. Alors, le coup de boule de Zidane, Materazzi, il l'a mérité bien, ce coup de boule. Pourquoi ? Parce qu'il était sorti de la communauté des gens qui se font mal pour faire le truc. Il avait attaqué sur la vertu de sa mère, des choses comme ça, ce que, en bon Kabyle, Zizou ne supportait pas. Bon, il aurait dû se retenir, mais je veux dire, là, il y avait une rupture de la communauté des sportifs de la part de l'autre, comme l'ignoble Schumacher dont nous parlions tout à l'heure. Ça ne se fait pas. Alors, et là, je crois qu'il y a l'explication du fait que le sport peut survivre à ces dérives idéologiques, spectaculaire, etc., dans le sport de masse. Le vrai problème, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui se remettent à 30 ans, 40 ans, à refaire de la course sur route, alors qu'évidemment, ils peuvent avoir aucune ambition de performance. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Ils le font parce qu'ils veulent prouver quelque chose, et d'abord prouver quelque chose à eux-mêmes, et prouver à eux-mêmes qui font partie de la catégorie des gens qui sont capables de se faire mal pour franchir la limite de leur impossible à eux.
Alors, précisément, la question qui peut nous venir à l'esprit en devant cette contradiction entre les deux devises des Jeux Olympiques et donc les deux concepts qui peuvent en découler du sport, c'est la question de savoir s'il y a une continuité entre la vision polémique du sport et la bataille politique, si le sport rend chauvin, si le sport pousse à l'affrontement aussi de communautés les unes face aux autres. Et Julien Sorès, à cet égard, je voulais vous citer un texte que je trouve très intéressant. Il y a des premiers textes de Maurras, enfin un texte de jeunesse, les lettres des Jeux Olympiques. En 1896, ont lieu les premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes. Charles Maurras, le célèbre fondateur de l'Action française, y est envoyé. Et il envoie des lettres à un journaliste sur ce qu'il observe. Et il dit qu'au début, il n'avait aucune envie d'assister à ce spectacle, parce que lui, nationaliste absolu, contempteur de ce qu'il appelait le cosmopolitisme, il se disait « je vais y voir un spectacle international où les nations, les identités vont se dissoudre ». Et puis, il change d'avis devant ce spectacle. Et il dit « pour ce qui est du cosmopolitisme, en fait, il n'y a rien à craindre de ce côté ». Puisque le sport, en mettant plusieurs peuples en présence et en les obligeant à se fréquenter et à se combattre, bien loin de s'unir par la sympathie, ces différentes nations sont poussées à se détester et à se combattre au fur et à mesure qu'elles croient se connaître mieux. Donc vous me voyez venir, parce que le sport est la porte du nationalisme.
Alors, c'est intéressant cet exemple parce que on est vraiment à la genèse des Jeux Olympiques et de ce qui vont devenir. Et je pense que alors le projet de Coubertin, évidemment, c'est un projet de paix, pacificateur. De paix, oui. Mais c'est aussi l'idée de mettre en place un mouvement transnational qui s'affranchisse des États et des logiques interétatiques qui, elles, peuvent mener à la guerre. Sauf qu'en réalité, cette dimension-là de l'olympisme est difficile à tenir. D'un côté, il y arrive en mettant en place, parce que le mouvement olympique va mettre en place ses propres institutions, ses propres instances. On a le CIO et on a dans chaque État membre un comité national olympique qui n'est pas la courroie de transmission du ministère des Sports de chaque. Et donc, c'est pas un mouvement qui est étatique. Donc, on a une forme d'indépendance dans la structuration du mouvement olympique vis-à-vis des États. Mais en même temps, quand on regarde comment se déploie le sport au cours du XXe siècle, alors le premier...
Oui, mais... Allez-y. Oui. Bien entendu, c'est pas le sport qui se politise. C'est un certain nombre de tensions s'emparent du sport pour s'exprimer. Alors, il y a les tensions politiques, le nationalisme, puis après, la guerre froide. Et puis, mais il y avait aussi, avant, l'identité locale des clubs, les mouvements de classe sociale. Le fait, par exemple, que dans les grandes villes industrielles, il y avait deux clubs. Et donc, c'était les classes sociales qui s'affrontaient par les clubs. C'est-à-dire que toute la société se reconnaît dans les affrontements sportifs et transfère les affrontements sociaux de différents types, pas toujours nécessairement politiques, nationalistes, dans le sport, qui devient le lieu, l'otage, le lieu de, d'autres affrontements. Et actuellement, par exemple, c'est tout à fait clair que les batailles sur la transsexualité, par exemple, se retrouvent dans le sport. C'est-à-dire tous les mouvements de plaque tectonique de la société se retrouvent dans le sport qui est un endroit d'exposition. Et les problèmes écologiques, etc., se retrouvent là. Et donc, il y a eu un moment nationaliste, c'est toujours une des grilles de lecture, le nombre de médailles, etc. Mais il y a des oppositions politiques, il y a des oppositions culturelles, il y a des oppositions même religieuses. Par exemple, est-ce qu'on peut disputer des grandes compétitions en période de Ramadan ? Voilà. Bon, cette question, qui semblait tout à fait bizarre il y a 50 ans, est devenue une question sérieuse. Donc, le sport, encore une fois, le sport, vous le disiez très bien, est une réalité plus profonde que ce que la société en fait. Alors la société, il projette toujours ses conflits et ses scissions. Mais le sport n'en est pas responsable.
Julien Sorès.
Juste pour revenir sur les éléments et sur les mécanismes qui montrent quand même qu'il y a une politisation malgré les intentions initiales, parce que c'était l'objet de mon propos, c'était de dire que, en fait, si on prend les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va se passer ? Les Jeux Olympiques, ils doivent être organisés par un État dans une ville, donc qui va investir des moyens, avec la présence du chef d'État qui va être au moment de la cérémonie d'ouverture des Jeux, avec les images qu'on connaît de certains régimes autoritaires, etc. Bon, il y a ça. Il y a aussi l'idée que le sport va s'imposer progressivement au cours du XXe siècle comme un lieu de comparaison et de compétition entre États. Donc, il y a forcément une dimension, la course aux médailles, c'est quelque chose qui va dire à un moment donné la puissance d'un État. Et puis, vous avez une politisation aussi sur... parce que là, il y a une forte médiatisation, enfin, il y a une médiatisation croissante des Jeux et que ça devient un espace d'expression. L'exemple, c'est les Jeux de Mexico en 1968, avec les sprinteurs afro-américains qui ont le poing levé. Et donc, on a une politisation, de toute façon, de facto, du sport. Et pour reprendre, il y a à l'échelle internationale, mais c'est vrai aussi à l'échelle locale, puisque dès la fin du 19e siècle, alors, en dehors des quelques clubs privilégiés, vous parliez du Stade français, du Racing Club de France, où là, on a affaire à une élite sociale, mais qui ont les ressources économiques, en fait, pour se payer la condition de la pratique, se louer des terrains, des pavillons, etc. Dès que le sport se démocratise un peu, il faut les pouvoirs publics, et donc les municipalités. Et à partir de ce moment-là, à l'échelle locale, par la construction de stades, par l'octroi de subventions, on a un processus de politisation qui se joue d'ailleurs, par exemple, c'est assez intéressant dans l'entre-deux-guerres dans la banlieue parisienne. À partir du moment où la banlieue devient rouge, où les communistes prennent des communes, on voit bien que la politique sportive n'est plus du tout la même et qu'elle est un enjeu politique très fort.
Et alors, entre eux, c'est dans cette question-là du sport comme combat, du sport comme dépassement de soi, du sport comme manière de se retrouver, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir que la notion de sport permet peut-être de repenser les relations du corps et de l'esprit, et qu'elle rejoint des interrogations très contemporaines de la philosophie.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Racing 1, Monaco 0. Évidemment, les monégasques sont un peu déçus.
Cependant, les caméramens des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel 1957. Et les malheurs du goal du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère.
Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme.
Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile.
Vous avez joué goal, je crois.
Oui, j'étais goal au Racing universitaire algérois qui portait d'ailleurs les couleurs du Racing Club de Paris.
Nous entendions Albert Camus lors du match Racing Monaco au Parc des Princes le 15 octobre 1957, c'est-à-dire peu après son prix
Nobel. Qui était le goal ?
Ah, je ne sais pas.
Talandier, Varini. Peut-être Talandier, Varini. Les deux venaient de Besançon.
Je ne le savais pas du tout. Mais Jean-Luc Marion, dans votre livre, La raison du sport, donc entre ces deux concepts, et dans l'antinomie presque qui se déploie entre ces deux concepts, vous dites que pour la dépasser, il faut pratiquer une expérience de réduction phénoménologique et revenir à l'expérience du sportif. Vous dégagez deux structures. La première, c'est la transformation de la souffrance qu'éprouve le sportif, en véritable plaisir, voire en jouissance. Et deuxièmement, vous montrez que cette jouissance tient à une émancipation du sportif par rapport à son corps, ce que Husserl appelait le corpus, et pour retrouver la chair, c'est-à-dire le corps vécu en première personne, ce qu'en phénoménologie on appelle le Leib. Alors la première question que je voulais vous poser, pour le cartésien que vous êtes aussi, est-ce que le sport n'est pas le moment où l'union substantielle s'éprouve spécifiquement? Il y a une lettre célèbre de Descartes, la lettre à Élisabeth du 28 juin 1643, où il dit « Cette union-là, elle pourrait faire l'objet d'une notion primitive, mais qui est très confuse, et donc elle est inaccessible aux philosophes eux-mêmes, à moins qu'ils ne cessent de méditer et qu'ils l'éprouvent. » Est-ce
absolument
dans le sport qu'on trouve cette épreuve?
Oui, ce qui est étrange, parce que on dit Descartes est dualiste, ce qui est vrai jusqu'à la sixième méditation. Mais à la fin, Descartes dit qu'il y a des cas où on ne pense à rien. Et on regarde le ciel, les arbres par en dessous. Et à ce moment-là, mon esprit est étendu et mon corps physique pense. Alors, cette expérience-là qui reste sans nom chez Descartes, hein, c'est l'union substantielle, et moi je pense que c'est le point d'aboutissement de Descartes, mais la plupart des historiens de la philosophie sous-estiment ce moment, on peut le vérifier dans l'exercice sportif. Dans l'exercice sportif, je cesse d'avoir un corps absent. Là, nous sommes assis, aucun d'entre nous n'a de crise physiologique, donc nous n'avons pas mal, et nous n'avons pas de corps. Nous avons un corps qui se caractérise par le fait qu'on ne l'éprouve pas. Et la vie normale, c'est le silence des organes, et nous n'avons mal nulle part, et tout va bien. Ce corps qui est abstrait de l'expérience psychique redevient central lorsque je cours, lorsque je dépasse un certain niveau de fatigue, d'exercice. D'un seul coup, tout ce qui se passe dans mon corps, c'est moi-même, et tout ce qui est moi-même, ce à quoi je pense quand je fais du sport, a rapport avec ma chair. Et alors la chair, elle est identique à l'esprit. La chair, c'est l'esprit en acte. Et Michel Henry, le grand phénoménologue Michel Henry, expliquait ça très bien. La chair, c'est la vie qui s'affecte elle-même. Et c'est ce qu'on éprouve dans le sport. Le sportif, quand il est en état de grâce, comme il dit, il est totalement unifié en lui-même. Et c'est, je pense, le motif profond de la pratique sportive. On pratique le sport pour connaître ces moments-là où on est... On ne peut plus dire « je est un autre ». Je est ce que je suis et je ne sais pas exactement qui je suis à ce moment-là, mais je sais que je suis moi-même. Et le moment où, c'est l'expérience dans la course à pied, c'est, par exemple, c'est l'expérience de la dernière ligne droite où vous êtes épuisé depuis longtemps, où vous ne savez pas pourquoi vous pouvez continuer et vous êtes capable d'accélérer et de battre votre record personnel. Comment vous l'avez fait? Vous ne savez pas, votre chair l'a fait. Et votre chair est plus vous que vous-même. Et cette expérience-là est fondamentale. Et la phénoménologie l'explique. Ce qui est assez récent, que la philosophie puisse expliquer le sport.
Oui. Alors que Julien Sorez, dans votre livre « Le sport en procès », sur cette question du corps du sportif, vous exhumez aussi une dimension à laquelle on pense peu, à savoir que le corps du sportif, historiquement, dans les archives, vous avez retrouvé tout ça, est un corps très souvent maltraité, abîmé, et que presque l'association entre le sport et la santé, alors évidemment faire du sport, ça ne c'est pas nuisible à la santé quand on en fait à petite dose, mais que cette association est à certains égards trompeuse.
Oui, c'est vrai. Je voudrais juste revenir sur un tout petit point avant qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que dans un des principes fondamentaux qui va faire que le sport va avoir une légitimité sociale, c'est la réconciliation, ou c'est une conception qu'on retrouve en Grande-Bretagne et qui est la chrétienté musculaire. Et qui est qu'à un moment donné, on veut dans l'éducation faire des chrétiens avec un corps vigoureux. Et le corps devient l'espace par lequel on va pouvoir moraliser les individus. C'est ce qui crédite en fait l'exercice, l'effort de valeur sociale, de valeur morale. Et c'est ce qui fait que dans les premiers établissements qui vont pratiquer le sport, les public schools britanniques, réservés à l'élite donc britannique, eh bien le sport va trouver sa place, va trouver un fondement, un terreau éducatif. Évidemment, alors, pour revenir à votre question, et c'était juste une petite précision, mais ça me paraît intéressant, que le sport ait bien cette réconciliation, en fait, entre le corps et l'esprit, même d'un point de vue historique. Concernant, alors, en revanche, il y a une dissociation ou une dissonance, c'est-à-dire que le sport pratiqué, et c'est notamment, alors, soit pratiqué à très haut niveau, avec une intensité très forte, et on le retrouve dès la fin du 19e siècle, il y a une dissonance entre le corps et l'esprit, ou en tout cas, il y a ce qu'on peut appeler une aliénation, une forme d'aliénation, puisque on voit, et on le voit dans les procédures, alors évidemment, l'entrée judiciaire, c'est au moment où les choses se passent pas bien, mais il y a tout un tas de procès, par exemple, entre des cyclistes rémunérés ou professionnels, même si on n'emploie pas tout à fait le terme, et des directeurs d'épreuves sportives, des propriétaires de vélodromes, qui, en fait, essaient de repousser toujours les limites des athlètes, puisque le spectacle est fondé sur, en partie, le dépassement des limites de la performance établie précédemment. Et vous avez des coureurs, par exemple, qui sont payés pour courir 24 heures sans s'arrêter sur une piste qui fait 600 mètres de long. Donc, vous imaginez le nombre de kilomètres et de tours qu'il faut faire. Et puis, bah, le problème, c'est que quand on est assis sur un vélo pendant 24 heures, en plus à la fin du 19e siècle, bah, on a des crampes, on a des douleurs, il y a des chutes, les coureurs saignent, des gens qui sont trop distancés par d'autres et qui décident d'arrêter. Eh bien, en fait, quand on rentre dans les archives judiciaires, eh bien, on se rend compte qu'il y a des corps en lambeaux, qu'il y a des corps qui souffrent. Et que le sport, ce n'est pas que un épanouissement personnel, mais c'est aussi une grande souffrance.
Pas du tout. Je veux dire, là, vous parlez des écureuils qui tournaient en rond aux Veldives. Dans leur cagna, c'était atroce. Et les gars se dopaient simplement pour pouvoir continuer à courir. Il y a la célèbre interview des frères Pélissier par Albert Londres, ça ?
Tout à fait, oui, 1924.
Qui était à Lisieux ou à Caen, je ne sais plus, et qui explique qui se dope parce qu'ils ont trop mal. Et donc, le dopage vraiment scientifique poussé très loin de l'Allemagne de l'Est a détruit des corps. Alors là, c'est assez intéressant parce que quand le corps est détruit comme ça, c'est parce qu'il est considéré comme une machine. C'est-à-dire, il n'est pas...
La machine au carré, vous parlez.
Oui, ah bah oui. Il est une machine, c'est pas le corps vivant, c'est pas la chair. C'est vraiment le dualisme poussé à l'extrême, où le corps est pris comme une machine, non seulement au sens du corps machine de la maîtrise et de quelques autres, mais au sens où le vélo est très étrange, parce que le vélo est contemporain du travail à la chaîne et de la machine à vapeur. Mais dans le travail à la chaîne, l'ouvrier essaie de suivre le rythme imposé par la machine à vapeur, comme Charlot dans les temps modernes. Quand il prend le vélo pour aller travailler, par exemple, et c'est une libération, le vélo, il l'appelle sa machine. Mais la différence, c'est que là, c'est pas lui qui suit le rythme imposé par le moteur, il est lui-même le moteur. Et dans le sport, c'est pour ça qu'il y a une machine au carré, il y a un travail aliéné, plus aliéné que celui qu'analyse Marx, parce que c'est moi-même qui me transforme en machine, en moteur. Et donc je suis obligé de m'interpréter les gains marginaux, c'est le problème du vélo actuellement. Que le vélo dépend d'une double machine, les progrès mécaniques de la machine vélocipède et les progrès que, par analogie et association, le corps va devoir subir pour être à la hauteur du vélo. Et c'est le grand danger. Pourquoi est-ce que c'est le sport le plus fragile devant le dopage ? Parce que non seulement je suis dépendant d'une machine, mais je deviens une machine.
Julien Sorez, il nous reste quelques secondes, mais je vous laisse le mot de la fin.
Oui, non, mais je souscris totalement avec l'idée que, en plus, dans le cyclisme, dès le début, et il y a quand même quelque chose qui se noue là, c'est que le cycliste est un moyen d'expérimenter le progrès technique, et donc pousse les limites à son paroxysme de l'effort humain.
Merci beaucoup à vous deux. Vous ne m'avez pas tout à fait donné envie de faire du sport, mais enfin, c'était extrêmement intéressant, donc je garde mon préjugé de départ. Merci beaucoup à Aline Biette pour la préparation de cette émission, et à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. Et de mon côté, je vous dis à bientôt.